Grenoble-Alpes Métropole présente Le féminisme fait le printemps, 4 rencontres avec des personnalités inspirantes pour mettre en lumière certains enjeux des luttes féministes. Titu Lecoq, journaliste, blogueuse et romancière, a publié Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Elle se penche sur les stratégies de gestion de l'argent au sein des couples hétérosexuels. Quel piège éviter pour ne pas renforcer les inégalités? Pourquoi parler d'argent même quand on s'aime?
J'ai sorti ce livre, Le couple et l'argent, en octobre dernier. Je fais beaucoup de promos. Et à chaque fois, on me disait, mais pourquoi ce sujet? Et ça étonnait les journalistes. Genre, ouais, on ne vous attendait pas du tout là-dessus. Et en fait, comme si on n'attendait en général pas les féministes sur un sujet qui parle d'argent. Et la question n'est pas non plus si absurde que ça, parce que si on reprend le mouvement MeToo, et bah, depuis le début de MeToo, en fait, on n'a pas parlé d'argent. On n'a en général pas parlé d'inégalité économique. On a parlé de violence sexuelle, on a parlé de charge mentale, on a parlé de parentalité, on a parlé de plein de choses, mais on n'est pas arrivé jusqu'au sujet de l'argent. Et quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit, mais alors, pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord que, culturellement, en France, on ne parle pas d'argent. Alors, on parle d'argent, mais de manière très abstraite. Un peu genre l'argent, c'est bien, c'est mal, les riches, c'est bien d'être riche, c'est pas bien d'être riche, enfin bon, sous un angle un peu disserte de philo. Mais est-ce que vous savez quel est le salaire de votre meilleur ami? Eh bien, c'est pas si évident que ça. Est-ce que vous savez comment les couples que vous fréquentez tous les jours, comment ils sont organisés? Est-ce qu'ils ont un compte commun? Est-ce qu'ils ont un compte perso? Comment ils répartissent tout ça? En général, on ne sait pas en fait. C'est des questions qu'on n'aborde pas. Là, il y a un vrai tabou français par rapport à ça. Et puis après, il y a un sujet sur le féminisme. Où je pense aussi que pendant longtemps, j'avais rencontré Christine Delphi, donc qui est une féministe des années 70, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets économiques. Au sein des couples, en plus, vraiment, elle a fait un travail de minutie là-dessus. Et elle me disait, mais quand j'en parlais, on me disait, tu nous ennuies, Christine, c'est trop compliqué. Et donc, il y avait cette idée, en fait, l'économie, c'est des maths. Les maths, on ne se sent pas du tout légitime là-dedans et donc on ne va pas regarder là-dedans. Il a fallu qu'arrivent effectivement des féministes comme Lucille Pétavin qui ont une formation pour aller lire les documents, etc. et qui se disent « oui, je me sens légitime à m'emparer de ce sujet économique ». Et après, il y a un autre, alors ça c'est un peu le fond du sujet quand j'ai commencé à plonger dedans, qui a été de me rendre compte pendant la promo. Alors normalement, quand on sort un bouquin féministe, on est dans les pages « société ». C'est le classique. Et là, j'ai découvert des nouveaux journalistes que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais rencontré ces journalistes économiques. Alors, j'ai eu que des femmes. Hein. Bon, à chaque fois, c'était la femme du service éco qu'on avait envoyée pour faire l'interview. Et donc, elle me faisait l'interview, mais elle commençait systématiquement par un off. Et elle me disait, oh, j'ai découvert plein de trucs. Alors, ça fait 25 ans que vous travaillez sur le sujet d'économie, etc. Et en plus, souvent, elles étaient spécialisées inégalité femmes-hommes, mais c'était les salaires, en fait. Elles avaient beaucoup bossé là-dessus, sur la question du salaire, de l'entreprise, etc. Mais ce qu'il y avait dans le livre, elles disaient, j'ai jamais entendu parler, je m'étais même jamais posé la question. Et donc, il y a un vrai manque de culture économique qu'on retrouve partout. Et chez ces journalistes éco, c'était assez logique parce qu'en fait, si vous faites attention au discours médiatique sur l'économie, sans aller lire des magazines spécialisés, mais juste dans les médias généralistes. On nous parle tout le temps d'économie, en fait, et d'argent. Mais c'est toujours avec le même précepte de base qui est que l'unité économique de base dans notre société, c'est le couple, c'est le ménage. On va dire, les ménages ont confiance, les ménages ont peu consommé, les ménages épargnent en ce moment, voilà. Et donc, il y a des analyses, mais toujours sur le ménage. Et en fait... En fait, concrètement, un ménage, c'est deux personnes qui, dans l'écrasante majorité des cas, n'ont pas du tout les mêmes revenus. En fait, il y a une inégalité économique au sein du ménage qui est complètement invisibilisée dans le discours économique qu'on a de manière générale. Alors, pour vous dire, il y a une inégalité économique. En moyenne, en France, à l'heure actuelle, à moyenne des couples, le différentiel de revenus est de 32% en faveur des hommes dans les couples hétérosexuels. 32%, c'est énorme. C'est bien plus que les inégalités salariales. Mais... on ne le voit pas, quoi. Ça passe à la trappe, c'est complètement... c'est pas devenu un sujet politique pour l'instant. Et donc, une des raisons un peu explicatives au fait qu'on voit le ménage et on ne voit pas derrière la répartition des richesses, c'est que un peu le chantre de l'économie actuelle, c'était Smith qui avait fait un peu le bouquin d'économie moderne qui a posé les bases de la théorie économique libérale. Et donc, c'est génial parce qu'il y avait une autrice scandinave qui a fait un livre qui s'appelle « Le dîner d'Adam Smith » où elle s'est demandé, donc Smith explique, et il a vraiment tout un passage où il explique que ce qui fait tourner le monde, c'est l'intérêt personnel. Et donc, en fait, c'est l'égoïsme. Il dit, le boucher qui vous vend votre steak, il le fait parce qu'il y trouve un intérêt économique. Il ne le fait pas par générosité. Il ne le fait pas par altruisme. L'altruisme, ça ne fait pas tourner le monde. Et donc, voilà, il a vraiment posé ce truc de tout agent économique cherche son intérêt personnel. Et donc, partant de ça, cette autrice scandinave, dont je n'en retiens jamais le nom, et quand je le retiens, là, je l'ai en tête, mais je vais trop l'écorcher, donc je ne le dis pas. Elle a cherché, donc, bah, Smith, OK, son steak, qui le préparait? Et donc, elle s'est rendue compte, il ne s'est jamais marié, mais il a vécu toute sa vie avec sa mère. Et donc, son steak, et il dit vraiment dans l'extrait, le steak, il n'arrive pas comme par magie, comme ça, dans l'assiette. Hein. C'est parce qu'il y a un boucher qui a fait son agent économique, qui a trouvé son intérêt. Et donc, elle décrypte le truc. Elle me dit, mais en fait, ouais, son steak magique, effectivement, mais en fait, c'est le boucher parce que sa mère s'en est occupée et qu'elle est allée l'acheter, elle l'a cuisiné, et elle a fait en sorte qu'il dîne le soir. Et la mère d'Adam Smith, évidemment, Smith ne peut pas l'avoir comme un agent économique, puisque pour lui, un agent économique recherche son intérêt personnel et que là, c'est complètement assuré. Pourquoi elle va faire ça? Puisqu'elle n'en retire rien d'un point de vue économique. Donc, il y avait une espèce de contresens. Donc, il a évidemment invisibilisé sa maman complètement tout ce qui est le travail ménager dans les théories classiques d'économie. Alors, quand je me suis lancée sur ce sujet, j'avais deux questions. En fait, le livre, il s'appelle « Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ?» Ce n'est pas exactement la bonne question. C'est quand j'ai posé le « Pourquoi ?», j'ai demandé à une historienne avec qui j'avais déjà travaillé, Michèle Perrault, qui est la grande historienne et du féminisme des femmes et de la classe populaire. La classe ouvrière, elle a commencé par ça comme sujet. Et donc, je lui demande, mais pourquoi? Et alors, vraiment, elle fait, bah, parce que la féminité, c'est le don. Waouh, OK. En une phrase, c'était réglé. Je fais, eh ben, ça va être court à écrire, ce livre, quand même, Michel. OK. Et en fait, j'aurais pu juste faire, la féminité, c'est le don. Et donc, effectivement, parce que dans notre société, la féminité est construite autour de l'idée de don. Ça ouvre, moi vraiment quand elle m'a dit ça, ça a fait une espèce de petite explosion dans ma tête. Je fais ok, ouais, ça ouvre plein de perspectives différentes. Et comme on sait, grâce à Françoise Héritier, qu'on a construit la féminité et la masculinité en opposition l'une à l'autre, si la féminité c'est le don, la masculinité c'est pas l'égoïsme, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, dans notre société, c'est l'argent. Et donc effectivement, il y a quelque chose qui est associé à l'idée de virilité, qui est l'idée de gagner de l'argent. L'idée de gagner de l'argent n'est pas une idée associée au féminin, pas du tout. Et c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que la féminité, c'est le don, et que les femmes sont là pour donner, elles donnent la vie, elles donnent du lait, elles donnent leur temps, elles prennent en charge, elles s'occupent, etc. La femme qui ne le fait plus et qui demande une augmentation de salaire, par exemple, eh bien, elle n'est presque plus une femme. Elle est dans une espèce de posture anti-naturel de ce qu'on attend d'une femme. Et ça se voit, je trouve ça se voit beaucoup quand vous ferez attention, la manière dont on parle des femmes de pouvoir, en fait, il y a toujours quelque chose de négatif derrière. Parce qu'on se dit, ah, c'est pas vraiment une femme, elle est passée de l'autre côté, du côté des hommes. Donc la question, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes? Voilà, on a fait le tour. Hein. En 10 minutes, c'était bon. Bon. Et la vraie question, c'est comment ça se met en place? Parce qu'une fois qu'on a, ok, on se dit, bon, bah, on voit la féminité, c'est le don, oui, mais en fait, quels sont les mécanismes dans notre société à l'heure actuelle et dans notre vie quotidienne, qui se mettent en place sans qu'on s'en rende compte et qui vont accroître, mettre en place cette inégalité, mais surtout l'accroître tout au long de la vie. Et pour pouvoir l'expliquer, je m'étais dit, bah, le plus simple, je vais prendre un personnage qui apparaissait déjà dans mon livre précédent, Gwendoline, qui s'appelle Gwendoline parce que personne ne s'appelle Gwendoline. Donc, si j'avais appelé Léa ou Monique, tout de suite, il y avait une génération, on m'aurait dit, ah bah oui, mais c'est pas valable pour les autres. Mais, alors là, Gwendoline, c'est bon. Gwendoline a un pouvoir magique, elle est toujours autant présente. Elle a 10 ans en 2023 et elle est à la retraite en 2023. Comme ça, j'ai toujours les dernières données, etc. Et donc, j'ai pris ce personnage de Gwendoline pour me dire, bah voilà, je vais déconstruire à chaque étape de sa vie les décisions qu'elle prend et qu'on a toutes prises et voir où est-ce qu'elle s'est trompée, pas trompée, qu'est-ce qui a joué contre elle, où est-ce qu'elle, elle aurait eu une marge de manœuvre, où est-ce qu'elle n'a pas de marge de manœuvre. Et c'était ça qui m'intéressait dans ce sujet. C'est le couple, les femmes et l'argent, c'est de voir le pouvoir individuel qu'on a dessus. En fait, l'argent, c'est à la fois, ça implique des structures politiques, on l'a dit, et politiques d'un point de vue national, mais effectivement, il y a plein de niveaux en dessous du national, et aussi, on a dessus un pouvoir complètement individuel. Et je voulais qu'à la fin du livre, effectivement, Macron puisse m'appeler et que je lui dise, bon, voilà, il faut virer Gérald et prendre ces trois mesures, mais aussi que les lectrices ou les lecteurs le ferment en se disant « Ok, bah demain, je peux changer ça, ça et ça dans ma manière de gérer mon budget et ça va déjà améliorer un petit peu la situation. » Pour reprendre Gwendoline, son enfance, au départ, je m'étais dit « Bon, bah, l'enfance, pas de question d'argent sur l'enfance. Enfin, si, à part que les enfants adorent l'argent. Mais moi, j'étais pareil, j'adorais l'argent. Je me disais « Je veux être comme Picsou avec plein de pièces d'or, etc. » Et donc, oui, le sujet de l'argent de poche, mais je m'étais dit argent de poche, c'est pas un sujet, quoi. On n'est pas sur les inégalités, mais bon. J'ai quand même regardé, j'ai quand même fouillé. Il se trouve qu'au moment où je faisais le livre, venait de sortir une étude menée par un service de banque en ligne pour les adolescents qui s'appelle Bixpay et qui avait donc fait un truc sur toute la France métropolitaine et qui montrait que en moyenne, les filles touchent moins d'argent de poche que les garçons. Comment c'est possible? Alors, c'est pas une grosse différence. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les régions en France, les parents ne donnent pas du tout la même somme aux enfants. En Bretagne, on donne beaucoup moins que dans le sud de la France. Et en même temps, ça ne m'étonne pas complètement. Donc voilà, donc les parents bretons, ils lâchent pas facilement sur le porte-monnaie. Mais en revanche, que ce soit en Bretagne ou dans le sud de la France, le garçon, il a davantage que la fille. Et on se dit, mais comment c'est possible, comment ça se met en place? Et la première explication que l'étude avait pointée en menant des interrogatoires, etc., des enquêtes auprès des familles, c'était qu'en fait, ils s'étaient rendus compte que les garçons demandaient plus souvent des augmentations d'argent de poche que les filles. Ah ouais, ok, donc ça commence très, très, très jeune quand même. Et après, je me suis souvenue, moi, en tant que petite fille, alors j'ai pas de frère, donc j'avais pas de point de comparaison avec un garçon, mais je sais que demander une augmentation à ma mère, c'était hyper compliqué. Je me prenais la tête pendant 6 mois, en me disant, mais comment je vais lui en parler? Mais non, mais la pauvre, la vie est tellement dure pour elle, je peux pas, et tout, je peux pas lui prendre 10 francs de plus quand même. Enfin bon. Et donc voilà, et je vois que mes enfants, j'ai 2 garçons, n'ont pas la même problématique. Bah, ils sont plus, ouais. Alors, on peut parler de cette augmentation, maman. Donc voilà, ils me font des tableaux, ils argumentent, ils machin, enfin, toute chose que moi, j'étais percluse de culpabilité, donc j'aurais jamais fait ça. Donc voilà, il y a cette question, ça veut dire qu'il y a déjà un rapport genré à l'argent quand on est à l'adolescence. Et ça se retrouve sur autre chose, ce rapport genré, et comment nous, les adultes, en fait, on le crée chez les enfants. C'est que, alors ça, c'est tiré d'une étude anglaise, mais je pense que c'est grosso modo la même chose en France. Ils se sont rendus compte que c'est pas que les parents préfèrent leur garçon ou leur fille ou quoi que ce soit, et voire même, en global, les parents ont tendance à dépenser plus d'argent pour les filles, mais sous forme de cadeaux. C'est-à-dire qu'ils vont dire... Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et la petite fille, j'aimerais bien que tu m'achètes cet agenda, ce cahier, ce machin, etc. Oui, écoute, si t'es bien gentille, on ira faire du shopping samedi et je te l'offre. Alors que les garçons, on va leur donner un billet en disant, tu t'achèteras ce que tu veux, bonhomme. Et alors, ça, les parents peuvent le faire, mais après, c'est de manière élargie. Les grands-parents vont avoir tendance, effectivement, à faire plutôt ça. Et donc, ça, quand on réfléchit à ce que ça veut dire comme message pour les enfants, ça veut dire que le garçon, il se retrouve à gérer un budget. Il a son billet, il en fait ce qu'il veut. Donc, il peut l'économiser, le dépenser tout de suite, le dépenser pour ce qu'il veut. Enfin, voilà, il est libre, il prend sa décision. La petite fille, elle doit passer par un adulte à qui elle doit faire plaisir pour obtenir le truc qu'elle veut, pour avoir le cadeau. Donc, elle est déjà dans un truc un peu de « Ah, s'il te plaît, ça serait sympa, etc. » Et avec le regard de quelqu'un d'autre qui va juger genre « Oui, c'est vrai que cette petite robe te va bien, je te l'achète » ou « Ah non, ça, j'aime pas, je te l'achète pas. » Donc, leur rapport à l'argent et quasiment au monde n'est pas du tout le même dans les deux cas. Et donc, c'est comme ça qu'on se rend compte que très tôt, il y a des rapports genrés des enfants, des garçons et des filles à l'argent et à la manière de le gérer et en fait à l'autorisation à avoir de l'argent. Et que les garçons, ils ont une espèce de légitimité, ils se sentent légitimes à demander une augmentation là où les filles ne l'ont pas. Ce qui, à mon avis, est en lien alors avec une autre étude qui vient plus tard dans la vie, mais que je trouve hyper intéressante, on sait que, de manière générale, les hommes en France sont mieux payés que les femmes. Bon, voilà, ok. Ce qui est intéressant, c'est le ressenti. De manière générale, les femmes sont plus satisfaites de leur salaire que les hommes. Donc, elles sont moins payées, mais elles trouvent ça normal et ça leur va. Et les hommes, ils sont mieux payés, mais ils trouvent que ce n'est pas assez et que quand même, ils pourraient avoir plus. Là, il y a quand même, ça ouvre des perspectives sur, ok, il y a quand même une question de subjectivité qui est à revoir dans qu'est-ce que je vaux dans le monde du travail. Et en fait, je pense qu'une des explications à ça, il y avait eu la même chose quand j'avais étudié les tâches ménagères, c'est que les femmes et les hommes d'ailleurs, on a tendance à procéder par comparaison en intrasexe. C'est-à-dire que les femmes vont se dire, par rapport à ce que gagnait ma mère, par rapport à la vie de ma grand-mère, eh ben, je suis indépendante économiquement, je m'en sors, j'ai de la chance, ça va, je n'ai pas à me plaindre. Parce qu'elles comparent avec les générations précédentes. Et c'est la même chose pour les hommes. Et donc, en fait, si on veut faire l'égalité femmes-hommes, en fait, ben non, évidemment, il faut comparer avec son conjoint qui, en moyenne, gagne donc 32% de plus que les femmes. Donc là, on se dit, bah non, il y a un souci. Mais c'est ce truc d'intrasexe qui fait qu'on ne se rend pas compte et on invisibilise en fait les inégalités qu'on est en train de vivre. Donc, Gwendoline, sur l'argent de poche, voilà, déjà, elle en a moins que son frère, qui s'appelle Gwendolin, évidemment. Après, il se trouve aussi que ce qu'elle demande comme cadeau, ça coûte plus cher que les cadeaux pour son frère. Alors, parce que le vélo rose qu'elle va demander, bah, le vélo rose, il coûte plus cher que le vélo bleu. Ça, on le sait, ça s'appelle la taxe rose. C'est que quand c'est quelque chose, un produit est packagé pour les femmes, il va être vendu plus cher que pour les hommes. Il y a une explication économique à ça. Ce n'est pas juste le patriarcat capitaliste qui a dit « Ah bah oui, on va les faire raquer plus ». Non, ce n'est pas ça. Il y a une vraie explication. Ils peuvent vous dire « Oui, alors vous comprenez, c'est un facteur économique parce que quand on achète en gros, on va acheter 10 000 vélos. En fait, les vélos roses, ils vont en vendre moins. Parce que les vélos roses, il n'y a que les filles qui vont en acheter et pas toutes les filles. Les vélos bleus, les garçons vont les acheter et certaines filles. En fait, le bleu, comme il est associé au masculin, il est perçu comme plus neutre, plus universel. Alors que le vélo rose, il est hyper connoté. Ben oui, il est connoté fille. Et les filles, eh ben c'est l'autre, c'est l'altérité, c'est le truc un peu bizarre à côté. Donc, systématiquement, dans un produit packagé comme ça, quand il y a les deux possibilités bleu-rose, on sait que le rose, on va le vendre moins. Donc, à l'achat, à l'unité, machin, il coûte plus cher. Donc, ils disent, bah oui, nous, on répercute, c'est comme ça, c'est pas notre faute. Donc, c'est comme ça qu'on explique en général la taxe rose. Mais c'est intéressant parce qu'en vérité, c'est exactement toute la théorie de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. Je vous le résume. Avec le vélo, c'est le masculin est perçu comme l'universel et le féminin a été construit comme l'à côté, l'autre, l'altérité, la différence. Être une femme, c'est être différente. Et donc, ça se retrouve dans les réveils matins, les vélos, les calculatrices, etc. Et l'autre chose qui va impacter Gwendoline quand elle est petite et surtout après adolescente, c'est que non seulement les produits féminins coûtent plus cher, mais en plus, elle va devoir répondre aux diktats sur le corps. Et donc, correspondre à ce que la société lui dit qu'une femme doit être. Donc, elle sera jamais, elle sera toujours trop grosse. Elle n'aura pas les bons cheveux. Elle n'aura pas les bons ongles. Elle n'aura pas... Donc, voilà. Et en fait, les frais pour tout ça, les crèmes, les épilations, les couleurs de cheveux, etc. Eh bien, en fait, ça coûte quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà calculé, mais à l'année, ça coûte vraiment très, très cher. J'ai personnellement un problème d'addiction aux crèmes, donc je ne me mets même pas de là-dedans. Moi, je suis hors catégorie, mais ça coûte très cher. Et donc ça, c'est terrible parce que j'ai remarqué, il y a quelque chose. Si vous rentrez dans la salle de bain d'une femme qui a plein de produits, un mec qui rentre, pas les mecs qui sont ici, présents ce soir, évidemment, les autres, ceux qu'on n'aime pas, Gérald. Gérald, il rentre dans la salle de bain et il dit « Oh là là !» Oh, elle a besoin de tout ça, bah dis donc, elle en met du temps pour se préparer. Parce qu'il faut pas que ça, il faut être belle, mais il faut que ça ait l'air naturel. Il faut pas que les efforts pour l'être se voient jamais. Et la fille qui ne met pas toutes les crèmes et qui ne s'épile pas et qui fait pas sa teinture pour les cheveux, on va dire, oh, bah, quand même, elle pourrait faire un effort si elle se laisse un peu aller. Ça n'ira jamais. Soit vous en faites trop, soit vous en faites pas assez, mais de toute façon, c'est le principe, ça ne va jamais. Donc voilà. Donc Gwendoline dépense son argent de poche, qu'elle a déjà moins que son frère, pour acheter tous ses produits. Ça, c'est son adolescence. Et ensuite, il y a le moment où elle part de chez les parents. Il se trouve que Gwendolyn, son frère, est son grand frère. Mais il y a une moyenne, alors c'est dans toute l'Europe. Je trouve ça hyper intéressant parce que le moment où on est parti de chez nos parents, c'est toujours c'est un moment important dans les vies. Et c'est un moment hyper perso, quoi. C'est un truc d'émancipation, de voilà, je me souviens quand je suis partie de chez les parents, dans quelles circonstances, ce qui s'est passé, mon premier appart, etc. Et donc, on a l'impression qu'on prend une décision, ou que la vie prend pour nous une décision qui est genre vraiment importante et vraiment personnelle. Alors, en réalité, quand on prend les statistiques, en Europe, traditionnellement, les filles partent plutôt que les garçons de chez les parents. Ça se retrouve dans tous les pays d'Europe. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes âges, mais l'écart, il est systématiquement là. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des anthropologues qui ont travaillé là-dessus, qui ont dit, en fait, au paléolithique, ça fonctionnait déjà comme ça. C'est-à-dire qu'on était dans un système, on vivait par clan, et c'était les femmes qui quittaient le clan pour aller en rejoindre un autre. Donc, elles quittaient, elles s'en allaient, et les garçons restaient. Donc, ça serait un reste anthropologique de cette tradition. Mais concrètement, donc Gwendoline, elle s'en va, elle dit « Ah, moi, je suis trop libre, je suis indépendante, je suis moderne, à moi la grande vie. » Et Gwendolyn, il reste, et elle se dit « Mais quel gros bébé, il reste chez maman, c'est vraiment un loser. » Sauf que le loser, il fait quoi? Ben, il épargne de l'argent, tous les billets qu'on lui donne tout le temps. Il fait pas ses lessives, il paye pas sa bouffe, il est nourri, logé, blanchi. Et en général, les garçons partent plus tard parce qu'ils attendent d'avoir une situation économique un peu stable et un peu solide avant de partir. alors que les filles vont partir plus tôt en étant moins stables économiquement, souvent en continuant leurs études, en ayant un petit boulot à côté, etc. Et donc, elles se mettent déjà dans un état de fragilité. Là, déjà, en fait, Gwendoline est en train de ne pas épargner de l'argent, de voilà, se mettre dans une situation plus compliquée. Elle n'en a pas conscience. Alors, la question, c'est pourquoi les filles sont débiles ? Les filles ne sont pas débiles, mais a priori, la plus grande explication de ça, c'est que les filles, quand elles partent, elles gagnent une liberté. Parce qu'en fait, elles partent pour échapper au contrôle social des parents. Ça aussi, il y a eu une étude qui était géniale, qui était une étude menée sur les adolescents et les adolescentes. On avait demandé aux parents comment vous punissez votre ado. Et pour les filles et les garçons, ce n'était pas la même punition. Pour les garçons, c'était suppression des jeux vidéo. Et pour les filles, c'était restriction des sorties. Et donc, ça veut quand même dire quelque chose sur ce qu'on veut pour les garçons et pour les filles. Et donc, Gwendoline, en partant plus tôt, évidemment, financièrement, c'est pas terrible, mais elle gagne sa vraie liberté. Elle peut faire ce qu'elle veut et elle a plus ses parents sur le dos, et alors qu'ils vont évidemment moins surveiller ce que fait Gwendolyn. Donc voilà, elle s'en va et justement, il se trouve qu'elle a rencontré un garçon. On y reviendra. Richard. Richard, ouais, il s'appelle Richard. Il est super, Richard, on l'adore. Il pourrait être là ce soir, d'ailleurs, ça se trouve, il est là ce soir. Et donc, elle finit ses études et elle rentre sur le marché du travail. Alors là, c'est très, très simple. Les inégalités économiques sur le marché du travail, ça se divise en 3/3, qui sont vraiment, c'est exactement les mêmes pourcentages à chaque fois. Pourquoi les femmes gagnent moins ? Il y a 1/3, c'est ce qu'on appelle les cloisons de verre. C'est-à-dire que les femmes vont, on connaissait le plafond de verre, elles ne peuvent pas monter vers les postes à responsabilité. Mais en fait, il y a aussi les cloisons de verre. Elles ne vont pas vers les métiers qui rapportent de l'argent. Ah, un métier qui rapporte de l'argent, non. Et donc, elles sont plutôt dans les métiers du care et du soin. Qui pose la question de, mais pourquoi c'est moins bien payé ? Alors, avec ce truc de, plus un métier est féminisé, moins il est bien payé, mais moins il est payé, plus c'est des femmes qui le font. En fait, les métiers du care, c'est du don de soi. Donc, ça va avec la féminité. Et en fait, on a tendance un peu à les biologiser. C'est-à-dire à se dire que les femmes s'occupent des autres, elles le font naturellement. C'est comme ça. Et donc, on va pas, c'est pas une compétence, c'est pas quelque chose, on va pas les récompenser financièrement parce qu'elles s'occupent des vieux, parce qu'elles s'occupent des bébés, etc. C'est un peu leur tâche naturelle. Donc, ça, on considère dans notre société actuelle que ça ne vaut rien économiquement. Donc voilà, donc elles vont être dans ces métiers. Alors moi, je mets le care en au sens très, très large. Je ne mets pas que le soin. En fait, quand on regarde, même dans une entreprise, n'importe laquelle, BTP, ce que vous voulez, les femmes et les hommes ne sont pas du tout sur les mêmes postes. Les femmes sont aux ressources humaines et aux services juridiques. C'est là où on les retrouve, et à l'administratif. Et les hommes sont plutôt à tous les postes décisionnels. Et donc, au sein d'une même entreprise, qui peut être une entreprise même masculine, etc., mais en fait, on va trouver des femmes, mais toujours sur les mêmes postes, qui en fait sont des postes liés au fait de s'occuper des autres, grosso modo. Donc ça, c'est l'idée des cloisons de verre. C'est 1/3 des différences de salaire. L'autre, c'est le temps partiel. Alors, on nous a beaucoup dit le temps partiel, c'est parce qu'elles veulent s'occuper de leurs enfants, c'est leur choix personnel, etc. En fait, la majorité des temps partiels, il n'est pas du tout voulu. C'est parce que les femmes sont dans des métiers où le temps complet n'existe pas. Elles fonctionnent par mission. Typiquement, le ménage. Un temps complet de ménage, ça n'existe pas. Vous avez 3 heures dans telle entreprise, 2 heures dans une autre, etc. Et donc, elles sont à courir après les missions et les heures. Donc, il n'y a pas de temps complet dans ces cas-là. Et le dernier tiers, c'est, j'adore, ça s'appelle comme ça, le on ne sait pas. C'est le petit on ne sait pas. C'est, alors, on l'évalue autour de 3-4%. On ne sait pas pourquoi. À poste égal, à diplôme égal, à tout pareil, eh ben, on va moins payer la femme que l'homme. Alors, on a beaucoup dit oui, c'est parce que les femmes, elles demandent moins, etc. Mais en fait, il y a même des raisons plus historiques. Alors, ça, je peux vous le faire vite fait. Ma petite passion pour l'histoire. On a tous fait la Première Guerre mondiale, et toutes. OK ? On se souvient, les hommes, ils partent faire la guerre et les femmes, elles font tourner l'économie et elles vont bosser dans les usines et elles font des emplois qui étaient des emplois réservés aux hommes. Et là, à un moment, les patrons, ils se sont dit « Ah, mais il va falloir les payer, merde !» Eh bien, on va les payer comment ? Alors, ils auraient pu les payer la même chose que les hommes qu'elles remplaçaient. Alors, pas du tout, hein, évidemment pas. Ils auraient pu les payer en fonction des postes qu'elles occupaient dans l'usine. Bah, selon le poste, selon la difficulté, le machin, ou selon l'ancienneté, ou... Non, pas du tout. Ils se sont dit « En fait, on va faire un salaire féminin. » Donc, ils ont calculé de combien les femmes avaient besoin pour vivre, grosso modo, par semaine. Elles ne fument pas, elles ne boivent pas, elles mangent des salades, ça ne vaut pas grand-chose. Et ils se disent, eh ben voilà, ça, c'est un salaire féminin. Et donc, c'est comme ça qu'il y a vraiment eu, les patrons se sont mis d'accord, et il y a une historienne qui a travaillé là-dessus, sur le salaire féminin. Et après la guerre, donc, les syndicats ont dit, waouh, c'est une honte, il faut vraiment que les femmes elles soient payées comme les hommes et tout. Je dis, ah ben, super les alliés, quoi, les syndicalistes. Pas du tout. Pas du tout. C'est parce que leur calcul était que Il fallait que ce soit les hommes qui aient les boulots et que les femmes faisaient de la concurrence aux hommes en faisant le même boulot de la même manière en étant moins payées. Ils disaient, pour le même salaire, c'est sûr que le patron, entre un homme et une femme, il va choisir l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre les femmes au même niveau salarial. Comme ça, en fait, elles n'auront pas de travail. Elles retourneront à la maison s'occuper de la famille des ouvriers. Voilà, ça, c'était pour les syndicalistes. Mais ils ont complètement changé. Il n'y a vraiment plus une question de sexisme dans les syndicats en France. Jamais. Donc voilà, on s'est éloigné de Gwendoline, mais donc on a ces trois tiers. Alors dans les solutions, j'aime bien le recaser à chaque fois. Genre oui, on ne peut pas changer tout le système économique, certes. Mais quand les hommes me demandent « et qu'est-ce que je pourrais faire à titre individuel ?» Eh bien, il y a un truc tout simple que vous pouvez faire. Hein. C'est vous donner le montant de votre salaire à vos collègues femmes. Vous leur dites combien vous gagnez. Vous leur dites quand vous avez une promotion. Vous leur dites quand il paraît qu'un tel va partir, qu'un poste va se libérer, etc. Vous le dites, en fait, il faut qu'il y ait une transparence parce que les femmes, comme elles se satisfont de leur salaire, mais aussi parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont moins payées que les autres parce que les salaires ne sont pas transparents dans la boîte. En fait, quand elles se rendent compte que « Ah, mais attends, moi, à chaque fois que j'ai une copine qui a demandé une augmentation au travail, c'est parce qu'elle venait d'apprendre que le mec qui était arrivé 3 ans après elle était plus payé qu'elle », a fait « What ?» Et donc, ça donne des trucs. C'est vraiment une histoire qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps. Une copine qui a pris, le mec avait laissé sa fiche de paye, malheureusement, sur son bureau. Elle s'est arrivée, elle a pris une photo, hop, comme ça. Et après, elle l'a envoyée au groupe WhatsApp de toutes les filles de l'entreprise. Mais c'est pas, voilà, bon, c'est pas très fair play. Donc, dites-le carrément. Et c'est un premier truc à faire. Et je sais, alors, je me souviens plus du nom, mais je sais qu'il existe un, ça serait une des lois au niveau national. Alors, c'est en discussion au niveau européen, ça serait la transparence des salaires. Qu'en fait, il y a un moment, il faut en passer par là, il faut savoir combien les autres gagnent. Les autres pays européens sont plutôt pas complètement contre. La France n'est pas du tout pour. On ne veut pas. Et donc ça, c'est au niveau européen. Donc le temps que ça se fasse, on n'y est pas. Mais je sais que dans plusieurs entreprises, il y a un groupe, un site internet qui a été fait par des informaticiens français où vous pouvez rentrer votre salaire, votre boîte, votre ancienneté et les études que vous avez faites, etc. C'est anonymisé. Et comme ça, tout le monde peut consulter et regarder est-ce qu'il y a des gens de mon entreprise qui ont rentré leur salaire et que je puisse voir où est-ce que je me situe, etc. Donc voilà. Bon, alors Gwendoline, elle n'avait pas d'argent de poche. Elle est partie trop tôt de chez elle. Elle gagne évidemment moins d'argent qu'un homme. Bon, tout ça, c'est pas grave. Elle se met en couple avec Richard. Et là, c'est super. Parce que Richard, il a lu Mona Chollet. Et Richard, il veut réinventer l'amour. Il est là, mais oui, bien sûr. Richard, il veut érotiser l'égalité, bien sûr. Et Richard, il a lu Ovidie, là. Il est genre, waouh, putain, je n'avais pas pensé à tout ça. Donc, Richard, c'est un allié. Et donc, tout se passe très bien. Et donc, évidemment, Richard dit, bah, ils viennent d'emménager. Bah, moi, à la cuisine, c'est vrai, je ne sais pas trop faire. Mais la vaisselle, ça ne demande pas de compétences. Je fais la vaisselle. Il met un point d'honneur. Tous les soirs, c'est lui qui fait la vaisselle. Et elle se dit, waouh. Ah, bah, nous, on n'est pas comme les autres. Hein. Alors, ce n'est pas comme mes parents. Et puis après, ils ont un enfant. C'est une bonne idée. C'est merveilleux. Et là, elle va se rendre compte, ah, ben en fait, on est un peu comme les autres. En fait, la plupart des jeunes couples, au moment de l'installation, l'inégalité économique, elle ne se voit pas. Elle est trop faible pour qu'elle soit voyante parce que sur les choix de carrière, etc., il n'y a pas eu les promotions, on n'est pas sur les gros salaires, tout le monde commence au SMIC. Enfin, donc, ça ne fait pas des grosses différences. Et puis arrive l'enfant. L'enfant, toutes les statistiques le disent, mais depuis des années et tous les ans, ils nous ressortent le même truc en disant ça n'a pas bougé. Ça creuse les inégalités économiques, mais de façon exponentielle dans les couples. Alors, pourquoi ? Il y a évidemment que la femme qui vient d'avoir un enfant, elle ne va pas avoir une promotion professionnelle, elle n'est pas mobilisée au travail, quoi. Elle n'est pas focus. Donc voilà. En revanche, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'en même temps, les hommes qui viennent d'avoir un enfant connaissent quasiment tous une hausse de leur salaire dans l'année suivante. Ils ont une promotion. En fait, il y a une prime à avoir un enfant quand on est un homme hétérosexuel. Et les hommes célibataires qui n'ont pas d'enfants ne connaissent pas la même carrière. Et on revient à la masculinité, c'est la puissance, et la puissance, c'est l'argent. Donc, non seulement elle, évidemment, elle est dans un métier qui gagne pas beaucoup, elle va pas avoir de promotion. Lui, à ce moment-là, il a un petit bonus. Et puis, il y a d'autres décisions qui sont aussi intéressantes parce que c'est des choses auxquelles on pense pas, mais il y a des études qui le montrent. Par exemple, il y a, c'était une étude de l'INSEE qui a travaillé sur la moyenne du temps de transport des Français et des Françaises pour faire les trajets domicile-travail. Il se trouve que les hommes ont des temps de transport plus longs que les femmes. C'est marrant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aventureux, parce qu'ils vont à la découverte du monde et qu'elles restent à côté de la maison ? Non, pas du tout. En fait, c'est quand elles ont des enfants. Parce qu'elles se disent, Il faut que je reste près de la crèche, il faut que je reste près de l'école, il faut que voilà, je sois disponible. Et donc, visiblement, il y a une tendance chez les mères à, quand elles peuvent avoir une opportunité, par exemple, de changer de boulot, elles vont se demander le salaire, la fiche de poste, mais aussi le temps de transport. Et le temps de transport peut être le facteur déterminant. Elles vont se dire, c'était un super boulot, c'était très bien payé, mais en fait, c'est trop loin de la maison, je n'y vais pas. Là où jamais un homme ne se dit ça, il se dit, c'est un super boulot, c'est très bien payé, c'est fait pour moi, j'y vais. Donc, il y a des spécialisations qui se mettent en place comme ça, et ça dans tous les couples. Alors, on me dit souvent, mais c'est les couples hétéros, est-ce que c'est pareil dans les couples homo? Eh bien, la spécialisation, on finit toujours par la retrouver. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il y a les enfants, il y en a un des deux qui se spécialise plutôt maison-enfant, tout ça, et l'autre qui se spécialise plutôt sur sa carrière. On le voit, on l'a vu à un moment dans notre vie. Vraiment, on ne voulait pas, on monte. Non, je ne me reste pas du tout comme ça. Nous, on a lu Mona Chollet, vraiment, c'est génial. Et il y a eu le confinement. Et là, il y a beaucoup de couples, on s'est dit, ah, OK, qui a accès à l'ordinateur pour faire un Zoom? Qui est en train de faire l'école à la maison, aka l'enfer sur Terre? Et voilà, et là, on a fait, ah ben oui, ben, on sait maintenant. Donc, c'est très évident. Il y a effectivement la spécialisation au moment du confinement a été vraiment, il y a eu un effet loupe, on s'est rendu compte de ça au sein des couples. Donc voilà, donc c'est ce principe de la spécialisation. Et après, il y a encore pire, il y a le fait qu'un enfant ne suffisait pas, ils en font un deuxième. Deux enfants, les frais de garde d'enfants, les machins, Gwendoline, elle gagne pas beaucoup. Ah, je vais passer à temps partiel. Super idée. Je vais prendre mon mercredi pour m'occuper des enfants. Alors, on fait le calcul, on se dit, oui, alors avec ton petit salaire, un peu quand même pas terrible, oui, tu vas gagner moins à la fin du mois, mais ça ne fait pas une grosse différence. En revanche, ça fait économiser eh bien, une personne pour le ménage, par exemple, parce que tu pourras faire le ménage le mercredi. Ça fait économiser des frais de garde d'enfants. Ça permet que tu puisses emmener les enfants au judo, au cirque, à la danse et machin, tout ça. Et donc, évidemment, le mercredi, quand les femmes sont à temps partiel, c'est pas un troisième jour de week-end, quoi. Non, elles convoient. Alors, elles sont taxi, elles convoient les enfants à toutes les activités. Elles gèrent tout l'administratif, des trucs relous. Hein, faut passer au service APE de la mairie. Mais oui, bien sûr, je me le ferai mercredi à 14h15. Et puis, il faut faire le photomaton pour refaire la carte d'identité du petit. Ben, je le ferai mercredi. Enfin bon. Et donc, en fait, elles prennent en charge tout ça, quoi. Elles font rouler la maison le mercredi. Ce qui permet à Richard de ne pas s'en occuper et d'être. Ben oui, et donc c'est pour ça que Richard, lui, il aura la promotion parce qu'il est focus. Mais il est focus parce que Gwendoline, elle fait tout à côté. Donc, elle a une perte de salaire. Ils économisent de l'argent. C'est super. Alors, elle, évidemment, elle voit sa perte de salaire. Elle ne la calcule pas sur les 5 ans où elle va rester à temps partiel. Elle ne calcule pas le fait que quand elle va vouloir revenir à temps complet, ben, elle va être un peu placardisée parce qu'après 5 ans à temps partiel, il y a ça. Et puis, évidemment, la retraite. Eh ben, elle n'y pense pas à sa retraite. Et ça, les députés non plus, ils n'ont pas pensé à la retraite de Gwendoline. Non, non, pas du tout. On avait oublié les femmes, elles font des enfants. Oh. Moins de cotisations retraite, moins de cotisations chômage, moins de cotisations à tout. Enfin, bon, donc, voilà. Donc, en fait, si on fait un peu la facture, le calcul, c'est ah, ben quand même, cette bonne idée de passer à temps partiel, ça va lui coûter très, très cher à elle. Lui, ça lui rapporte. Et ça va lui rapporter doublement, parce que ça va aussi lui rapporter fiscalement. Parce que le système des impôts français a décidé que l'égalité, c'était pas bien. Et qu'en fait, ce qui est intéressant du point de vue du fisc, c'est l'inégalité. Vous savez qu'il y a un quotient familial, on a des baisses d'impôts quand on a des enfants. Le quotient familial, il est plafonné. Il y a également un quotient conjugal qui tient compte de l'écart de revenus entre les deux. Et celui-là, il n'est pas plafonné. C'est-à-dire quand vous êtes Bernard Arnault, ben vous avez un très gros quotient conjugal parce qu'évidemment, votre femme, elle gagne beaucoup moins. Et donc là, vous avez une très grosse déduction fiscale. Et donc Richard, eh ben, focus sur son travail, à ne pas s'occuper du linge sale, à ne pas faire le ménage, à pas, hein, et en plus, il paye moins d'impôts. Donc, il est content. Mais il a lu Mona Chollet. Et puis, il y a aussi ce petit truc où, à un moment, elle se dit, c'était quoi le truc? On était à égalité, je faisais la cuisine. Bon, on était deux. Il faisait la vaisselle, mais Richard n'est pas con. Il a acheté un lave-vaisselle depuis, enfin, évidemment. Donc, il ne fait plus la vaisselle. Il n'a pas remplacé par une autre tâche. Il a fait, bah non, c'est bon. Moi, j'ai trouvé une solution à ma tâche à moi. Alors, un point, j'ai écrit un livre entier sur les tâches ménagères avant d'avoir testé les robots aspirateurs. Ces choses, ça peut sauver un couple. Je vous le dis. D'ailleurs, je lui parle, quoi. Mais je compte tellement sur toi dans la vie. Donc voilà, vraiment, le robot aspirateur, très, très bien. Donc voilà, et après, nous arrivons donc à le pot de yaourt. C'est un peu genre les Pixies sur scène, le pot de yaourt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent acheter une nouvelle voiture. Ça dépend de leur classe sociale. Acheter, changer la voiture parce que maintenant, c'est une famille de 4. Ou acheter une maison de campagne si c'est une famille plus bourgeoise, etc. Bref, Richard, il veut acheter un truc. Et Gwen, elle dit, ah ben, moi, je ne peux pas parce que moi, mon temps partiel, moi, mon petit salaire, moi, ma clause de verre, moi, mon plafond de verre, je ne peux pas payer. Et Richard lui dit, bah, pas de souci. Mais enfin, Gwen, évidemment, moi, je suis un mec sympa, donc il n'y a pas de souci. Tu ne payes pas, je prends en charge, je paye. Je paye la maison de campagne, je paye la voiture, voilà. Et donc, c'est ce truc que la plupart des gens font. On part du principe que quand vous ne faites pas tout en commun, évidemment, si vous faites tout en commun, on est sur une autre planète. Quand vous ne faites pas tout en commun, eh ben, en général, le petit salaire, il prend en charge les petites dépenses. Ouah, les pots de yaourt, par exemple. Ah oui, j'ai payé les courses. Et le gros salaire, il va prendre en charge la grosse dépense. Remboursement, par exemple, de l'appart, de la maison, etc. Et en fait, les grosses dépenses, dans la plupart du temps, c'est des dépenses qui font du patrimoine. Et là, on arrive à pourquoi les hommes sont plus riches ? Ben alors, parce qu'ils se font du patrimoine, alors que les femmes, elles achètent des trucs qui ne valent rien. Un pot de yaourt vide, ça ne vaut rien. C'est comme ça, ça ne vaut rien. Donc, en gros, tout ce qui est très nécessaire dans la vie, manger, s'habiller, etc., ça ne vaut rien. Et pourtant, c'est les femmes qui vont payer ça. Et quelques années plus tard, quand ils vont se séparer, malheureusement, eh ben, ils vont se dire, OK, on répartit un peu les choses, Richard dit. Bon, bah, la maison de campagne, je l'ai payée, donc on est bien d'accord qu'elle est quand même plutôt à moi. Et Gwen va dire, bah ouais, le pot de Yoplait, en revanche, c'est le mien. Et donc, elle va repartir avec ses pots de yaourt vide. Alors, évidemment, avant, ça ne se passait pas comme ça, parce qu'avant, les gens se mariaient sous le régime de la communauté des biens. C'était patriarcal, c'était pas bien, mais c'était un peu plus juste d'un point de vue économique. Il se trouve qu'il y a une tendance des couples, de la population en général, d'aller vers ce qu'on appelle l'individualisation du patrimoine. Les gens se marient moins, mais surtout, ils ne se marient plus sous le régime de la communauté des biens. En général, on se met en couple, mais d'ailleurs, même avant de passer au couple, on va se marier, juste on s'installe ensemble, on ne met pas tout en commun. C'est quand même, chacun arrive avec son patrimoine, son truc, et puis on voit un peu les dépenses, qui va payer combien, et puis voilà. Et quand on se sépare, chacun repart avec ce qu'il avait apporté à la base dans le couple. Gwendoline n'a déjà pas apporté grand-chose, mais c'est-à-dire que ce qui est invisibilisé là-dedans, c'est que Richard s'enrichit parce que Gwendoline s'appauvrit. Et qu'en fait, ce n'est pas contradictoire, c'est parce que l'une s'appauvrit que l'autre peut s'enrichir. Et ça fonctionne comme ça. Mais évidemment, au moment du divorce, Richard, il ne voit pas du tout ça. Et voire même, il la culpabilise un peu. Eh bien, tu t'es fait plaisir sur la pension. Mais alors, point vocabulaire féministe. Les associations féministes spécialistes de ces sujets disent, alors le terme pension, ça donne l'impression que c'est un peu une rente pour les mères, et elles préfèrent le terme contribution, parce qu'en vrai, ces contributions ne couvrent jamais l'intégralité des frais pour loger, pour nourrir, pour machin, un enfant. C'est impossible. Et de toute façon, tous ces frais, les femmes les payent en priorité, et puis après, le père va verser une, effectivement, contribution plutôt qu'une pension. La moyenne des moyenne médiane des contributions alimentaires en France, c'est, alors, vous voyez le truc, elle m'a tout pris, tout, Jean-Michel divorce, elle m'a tout pris, je n'ai plus rien, c'est simple. Et à chaque fois, j'en ai rencontré beaucoup, j'aurais dit, en fait, c'est pas possible, d'un point de vue légal, ça n'existe pas. Donc, la moyenne par enfant, pour un enfant, c'est 120 euros par mois. C'est la moyenne médiane, c'est-à-dire la vraie moyenne, quoi. C'est ce que les femmes, les mères touchent en général, c'est 120 euros. Voilà. Et ce n'est pas 240 pour deux, parce que c'est dégressif. Et du coup, ça fait moins quand il y en a deux. Donc voilà, hop, je vérifie l'heure quand même. Ouais, on est bien. Et donc enfin, pour achever Gwendoline, qui donc s'est occupée de ses enfants. Ses enfants sont partis. Et une fois que les enfants s'en vont, on fait quoi ? On s'occupe de nos parents. Il se trouve que Gwendoline n'a pas le temps de s'occuper des parents et que, évidemment, quand la mère de Gwendoline a perdu la carte vitale, je ne comprends pas, ouais, mais je vais m'en occuper, maman, je vais te refaire la carte vitale. Ouais, mais je ne comprends pas, l'ordinateur, mon téléphone, la tablette. Mais oui, maman, je vais passer dimanche pour débloquer tout ça. C'est Gwendoline qui s'en occupe. Mais, au moment du décès des parents, et ça, c'est ce que Céline Bessière et Sybille Golac, deux sociologues, ont étudié. Elles ont étudié pendant plus de 10 ans les registres de notariat, etc. Elles se sont rendues compte que les garçons héritent plus que les filles. Et la rebelote, on s'est dit, bah non, ils n'aiment pas plus leurs garçons que leurs filles, donc pourquoi ? Il y a des vraies raisons. Alors, d'un point de vue légal, c'est interdit. Il y a Napoléon a fait plein de trucs pourris dans la vie, mais il a fait un truc quand même qui n'était pas trop mal, c'était ça. C'est on n'a pas le droit de léser un de ses enfants, on doit donner autant à tous les enfants. Bon. Mais les notaires ont trouvé un moyen, et les familles en général, de contourner ce truc-là. En général, dans un héritage, il va y avoir ce qu'on appelle les biens structurants. Le bien structurant, typiquement, c'est la maison de famille. C'est la maison où Gwendoline et Gwendolyn ont grandi, c'est la maison voilà, qui est liée à un truc important dans la famille. Cette maison, on n'a pas envie de la vendre. On veut qu'elle reste dans la famille. Mais alors, on fait comment ? On ne va pas la couper en deux. Donc, elle va aller à Gwendolyn, mais Gwendolyn, on évalue la valeur. Je ne sais pas, disons que la maison vaut 100 000 euros, il devrait donner 50 000 à Gwendolyn. Il n'a pas les 50 000. Et là, on a inventé, les notaires font ce qu'on appelle la comptabilité inversée. Ils demandent à Gwendolyn, bon, en fait, vous avez combien ? 25 000 ? Bon, eh bien, vous donnez 25 000 à votre sœur et puis on va dire que la maison, elle en valait 50. Et hop, c'est réglé. Comptabilité inversée. Et Gwendolyn, elle va dire oui, parce que Gwendolyn, elle veut que la maison, elle reste dans la famille. Elle est d'accord avec ça. On veut garder le bien structurant. Ça peut être le commerce, ça peut être une terre agricole, ça peut être plein de choses. L'égalité voudrait que systématiquement, on vende et qu'on divise le fruit de ça. Et en fait, on ne le fait pas pour plein de raisons qui sont aussi des bonnes raisons. Mais donc, il se trouve que, comme Gwendolyn, comme les frères, font des meilleures carrières que les femmes, ont plus d'argent, ils sont perçus comme des meilleurs héritiers. Et donc, ils vont aussi avoir les moyens d'entretenir la maison, le moyen de payer la taxe foncière sur la maison plus tard, etc. Gwendolyn va dire, moi, de toute façon, la maison, je ne peux pas m'en occuper. Elle va me coûter trop cher, je n'ai pas les moyens. Et donc, parce que les femmes ont moins d'argent, elles vont avoir moins d'argent. Ce système est vraiment bien fait. Alors après, évidemment, des anthropologues ont fait remarquer que celui qui a le patrimoine, c'est celui qui a aussi le patronyme. Et qu'il y a quand même un peu cette idée, on revient à l'Europe au paléolithique, on a nos clans, la femme elle s'en va, donc elle change de famille et elle change de nom. Et donc il y a un peu cette idée aussi que les garçons seront perçus comme les bons héritiers, parce que quand ça va aux garçons, ça reste dans la famille. Quand ça va à la fille, on a l'impression que ça va dans une autre famille. Alors, c'est vraiment des vieilles structures psychologiques qu'on a, mais qui sont toujours un peu là et qui, en tout cas, se retrouvent concrètement sur la manière dont les gens font leur testament et répartissent les biens entre leurs enfants. Donc voilà, je vais passer en accéléré. Là, de toute façon, ça y est, elle est ruinée, elle n'a plus rien, elle avait déjà pas grand-chose au départ. Là, ça ne va pas du tout. La fin du livre, quand j'ai écrit le dernier chapitre, je voulais qu'on suivait Gwendolyn, puis à la fin, je voulais que Gwendolyn se retourne vers nous et nous parle, nous dise « Vous avez vu toutes les erreurs que j'ai faites, ne faites pas les mêmes. » Et voilà, et j'ai écrit le truc. J'ai pleuré en l'écrivant tellement je trouvais ça triste. C'est terrible. Il y avait notamment un passage que j'y tenais vachement, qui était au moment de son divorce, où elle disait aussi « La charge émotionnelle. » Oui, elle a eu la charge mentale de la famille, mais en fait, elle n'a pas fait que ça avec son mercredi et tout. Elle a fait exister une famille, c'est-à-dire qu'elle a pensé aux anniversaires de tout le monde, elle a organisé des vacances trop sympas, elle avait toujours une idée de sortie pour que tout le monde s'amuse le week-end, que on va faire ça avec les enfants, avec Richard, ça va être super, etc. Elle a animé la vie de la famille, c'est ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Elle a consolé, elle a aidé Richard quand à un moment ça se passait mal dans son entreprise, il se faisait harceler par son boss, c'était hyper dur pour lui. Elle était là, genre « mais c'est bon mon Richou, on va s'en sortir ». Voilà, elle était coach, elle a fait pareil avec les enfants et tout. Et à un moment, elle voit combien elle touche de retraite. Elle est seule. Richard s'est remarié, évidemment. Et voilà, elle se dit, OK. Et donc, on m'a volée, en fait. Et je me suis laissée complètement voler. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et donc, elle fait une espèce d'addition. Donc, j'ai écrit le truc, j'étais en larmes, très, très fière de moi. Un livre d'économie confiné en pleurant, je me disais. Ce n'est pas le capital de Marx qui fait cet effet-là. Je l'envoie à mon éditrice qui me dit « Alors, non, parce que ça donne envie de se pendre. Donc non, commercialement, je ne suis pas certaine. » Je dis « Oui, mais c'est la réalité. Écoute, c'est comme ça, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que tout va bien, tout va très, très, très mal. » Elle me dit « Ouais, mais ça a quand même une note positive à la fin. » Et donc, je dis « Oui, en fait, quand même, le but de tout ça, c'est de dire que l'argent, on peut changer des choses. C'est ce que je vous disais au début. Il y a des mesures qu'on peut prendre, politiques, etc. On pourra en reparler. Et puis, il y a des choses très concrètement qu'on peut changer. Et mon idée fondamentale, quand on me demande « Ah oui, mais alors du coup, c'est quoi la solution ?» Moi, je n'ai pas la bonne solution. En fait, il faut se dire qu'un couple, c'est une unité économique, c'est un gouvernement économique. Vous êtes un ministre et une ministre de l'économie, à votre niveau. Vous allez prendre des décisions d'un point de vue économique. Et quand vous allez voter, vous votez pour un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite, etc. En fait, dans votre couple, c'est pareil. Vous vous demandez, bah, mon couple, mes valeurs, est-ce que je veux un couple de gauche? Est-ce que je veux un couple de droite? Est-ce que je veux un couple où on ne se répartit que les dépenses? Ou est-ce que je veux un couple où on va aussi redistribuer les richesses? En général, Richard, il trouve ça moins cool comme idée, ça. Mais en fait, c'est des choix. Et je ne suis pas là pour vous dire ah ben, il faut faire ci ou il faut faire ça. C'est, chacun a ses idées et sa morale personnelle. Juste ce qui est frappant, c'est que la quasi-intégralité des gens en France font des choix économiques dans leur mode de leur vie familiale sans du tout en avoir conscience. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, on n'y connaît rien. Donc, on se dit, ah bah oui, un petit salaire et paye les petites dépenses, c'est vraiment une bonne idée. Bah non, donc maintenant, vous savez que non, ce n'est pas une bonne idée. Et en fait, maintenant, on peut, il y a plein d'outils sur Internet, alors beaucoup à destination des femmes, pour se faire une éducation économique. Il y a des trucs de base qui ne sont vraiment pas compliqués à comprendre. Moi, j'en raconte plusieurs dans le livre. Si vous ouvrez un livre, ne vous ouvrez pas un livret A au nom de vos enfants, par exemple, c'est une très mauvaise idée. Voilà, sachez-le, hein, on ne fait pas ça. Vous ouvrez un livret A à votre nom et vous gardez l'argent pour vous. Mais donc, il y a plein de petits trucs, en fait, juste à savoir. Donc, il faut d'abord se renseigner, se faire une éducation économique, et c'est possible, et vraiment, ça ne demande pas des compétences en mathématiques. Et après, discuter et se dire, alors attends, ok, souvent, il y a une question un peu psychologique, c'est quoi ton rapport à l'argent dans un couple? Il y en a un des deux qui est toujours celui que j'appelle le plus flippé du fric. En général, les deux savent très bien qui c'est. Mais pourquoi? D'où ça vient? C'est des histoires avec les parents. Ouais, mais tu vois, moi, chez moi, ça se passait comme ça quand j'étais petit. Du coup, j'ai toujours peur de manquer. Enfin bon, on parle de tout ça. On évacue l'aspect psychologique. On explique, alors, pour faire un budget, voilà un peu comment ça se passe. Et puis, on se dit, OK, est-ce qu'on est de gauche? Est-ce qu'on est de droite? Comment on fait? Enfin, voilà. Et après, c'est à chaque couple de se dire, bah, qu'est-ce qui nous ressemble le plus et quelle organisation on a envie de prendre? Mais en fait, ça se réfléchit. Voilà. Et je crois que je vais arriver pile... 19h31. J'aime cette précision d'horloger suisse. Donc voilà, donc, c'est à vous de vous dire, bah, on est des mini-ministres des finances. Et pour être ministre des finances, ça ne se voit pas tout de suite. Il ne suffit pas de dilater des fions. Il faut également, c'est aussi important, quelques petites connaissances. Et donc vraiment, aller suivre des comptes Instagram. Moi, je cite souvent Plancage de Léa Lejeune. Vous la suivez juste sur Insta. Entre deux recettes de cookies que vous suivez sur d'autres comptes, hop, vous dites « Ah, tiens, je ne savais pas, ça fonctionnait comme ça, l'épargne logement. » Et vous apprenez des trucs. Il y a des newsletters, il y a Oseille et compagnie. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont gratuites, qui sont facilement accessibles, qui pourront vous permettre de prendre des décisions en sachant un peu de quoi vous parlez. Voilà. On va faire des questions. Alors, je ne sais pas, ça se trouve, les gens à côté sont partis, se sont dit, c'est vraiment, quitte à regarder la télé, je préfère mettre Netflix.
Ah, c'est juste si, pour madame. Dire qu'il y a un bar qui est très sympa, qui s'appelle Gwendoline à Grenoble.
Merci. Ok, mais c'est super. Mais...
Moi, c'est pas une question, mais par rapport au couloir de verre, je travaille dans l'informatique. Et quand j'ai commencé à travailler... En gros, hein, dans l'informatique, il y a l'infra, c'est ceux qui s'occupent des serveurs, etc., on va dire les infras, et le développement, c'est l'applicatif. D'accord ? Quand j'ai commencé à travailler, ce qui était important, c'était l'infra, il y avait beaucoup d'hommes et moi, et dans l'applicatif, le développement, il y avait beaucoup de femmes. Les choses ont changé, et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Dans l'infra, il n'y a que des femmes. Dans le développement, il n'y a que des hommes. Et je ne sais pas comment ça s'est passé avec le temps et je ne sais pas pourquoi.
Alors, j'ai peut-être un élément de réponse qui, justement, c'est moi. L'exemple que j'aime bien, c'est l'informatique. Il y a le même avec le cinéma. Au départ, dans le cinéma et dans l'informatique, au tout début, c'est massivement féminin. Cinéma, il n'y a quasiment que des femmes. Alice Guy, maintenant, on la connaît, mais il y en avait plein d'autres réalisatrices, scénaristes, productrices, c'était majoritairement des femmes. Et en informatique, évidemment, les premières. Et donc, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que quand l'argent arrive dans un secteur d'activité, genre quand le cinéma, ça a commencé, au départ, c'était un divertissement de forains, donc c'était pas, ça valait pas grand-chose. Quand ça a commencé à générer vraiment du cash, et c'est la même chose avec l'informatique, là, ça s'est massivement masculinisé. Et donc, ce truc où on dit « Ah ouais, les professions féminines s'appauvrissent, etc. », en fait, on peut le retourner. Une profession où il y a un enjeu financier va se masculiniser. Et donc, du coup, ça, on revient sur la féminité, c'est le don, etc. Et donc, je pense qu'effectivement, au sein même de l'informatique, selon les postes, si le pouvoir économique, on a l'impression « Ah, bah, c'est plus là que ça va être important, que ça va se jouer », ça va se masculiniser. Après, il y avait une autre étude alors, qui a été menée en France il y a assez longtemps, qui était sur les employés de la sécurité sociale et qui disait « Il faut peut-être arrêter », qui concluait, en fait, qui avait suivi des employés genre pendant 10 ou 15 ans. Et qui s'était rendu compte en début de carrière, bon, bah, elles étaient assez motivées, elles pensaient faire une bonne carrière, machin. Et en fait, quand elles constataient que dans leur carrière professionnelle, en fait, ça patinait et qu'elles n'avaient pas les promotions, que les collègues masculins commençaient à leur passer devant, elles se disaient, bon, ouais, je vais faire des enfants. Et qu'en fait, il n'y avait pas juste l'idée de je fais des enfants, donc je suis pénalisée professionnellement, que ça marchait aussi dans l'autre sens. Je sens que je n'aurai pas énormément de débouchés professionnels, donc je vais plutôt me spécialiser sur la famille et les enfants.
Du coup, vous prenez beaucoup l'exemple d'un couple qui a eu un ou deux enfants. Est-ce que vous avez aussi comparé avec des couples qui n'ont pas d'enfants ? Est-ce que les écarts salariaux sont les mêmes ou pas ?
Non, ils sont beaucoup moins importants. Alors, on a vraiment, ça c'est super, on a plein de données chiffrées. Donc, on peut voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi avec les célibataires. Une femme célibataire a un meilleur salaire qu'une femme en couple avec des enfants. On peut se dire, OK. Mais un homme célibataire a un moins bon salaire qu'un homme en couple avec des enfants. Et des couples qui n'ont pas d'enfants sont plus à l'égalité salariale. Donc, il y a un vrai truc, c'est tout ce que j'ai décrit comme mécanisme, vraiment, ça se retrouve. La conclusion n'est pas « ne faites pas d'enfants
». Est-ce qu'on peut avoir les trois pistes à l'échelle nationale?
Alors, il faut que je m'en souvienne, virer Darmanin. Une des choses qu'on porte comme demande, alors, c'est les impôts, mais dans les impôts, déjà, on peut déplier, il y a plusieurs choses. Ça serait, en général, l'idée de déconjugaliser les impôts et les prestations sociales. En fait, en France, l'impôt est conjugalisé. Donc, en France, le ménage, les deux. Ben, hein. Donc, dès que vous êtes paxé, marié, vous êtes obligé de faire une déclaration d'impôt commune. Il se trouve que c'est pas nous, ça nous paraît être l'évidence. Il y a des pays européens où ça ne se passe pas du tout comme ça. Les gens peuvent être mariés, ils font chacun leur déclaration et ils reçoivent chacun leurs impôts à payer, calculés sur leurs revenus. Et donc, en fait, le système français fait que, part du principe, il y a une espèce de hiatus entre ce que pense l'État français, qui est qu'un couple fait forcément tout en commun. Et qu'une mesure fiscale qui va profiter que Richard paye moins d'impôts, c'est évidemment ce qu'il a économisé, ce qu'il va gagner, bah, ça va profiter à Gwendoline. Comme si on était en 1952, régime de la communauté des biens, on va manger un gigot, on est allé à la messe, on fait tout en commun. Sauf que les gens ne vivent plus comme ça. Les gens ont donc individualisé leur patrimoine. Donc, ce qui profite maintenant à Richard ne profite qu'à Richard. Au moment du divorce, il ne dit pas à Gwendoline, alors tiens, je vais te donner tout ce que tu m'as fait économiser comme thune, tu vois, sur les impôts. Non. Donc, il y aurait de déconjugaliser. Et donc, alors, on récupère genre 11 milliards d'euros, hein, quand même, si on fait ça, qu'on peut répartir d'une autre manière, d'une manière plus juste. Sachant qu'en plus, quand on est passé au prélèvement à la source, ça a changé des choses parce que sur le prélèvement à la source, en fait, il y avait un truc par défaut, il y avait deux choix. Il y avait, pour les couples, il y avait le taux personnalisé, le taux individualisé. Vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. On est très vite, le taux personnalisé. On calcule l'imposition au total du couple. Ah, bah, c'est 10%, on prend 10% à l'un, 10% à l'autre. Peu importe l'écart de salaire entre les deux. Mais vous pouviez aller sur le site des impôts et dire non, bah, je veux le taux individualisé. Richard est taxé à 12% et je suis taxé à 6%. En fait, c'est en fonction individualisée, en fonction des revenus de chacun. Le choix par défaut, c'était le personnalisé, le truc le plus injuste. Personne n'a été au courant de ce truc-là. Mais c'est vraiment, enfin, c'est passé comme une lettre à la poste. Tout le monde était là, on ne comprend rien, de toute façon, prélèvement à la source, pas compris. Donc, évidemment, en plus, personnalisé, individualisé, ils auraient fait exprès pour qu'on ne comprenne pas, c'était la même chose. Donc, personne n'a changé ce truc-là. Et donc, les associations féministes, ça fait « Eh, vous pourriez genre changer le choix par défaut sur la machine. Par défaut, vous mettez individualisé et les gens qui veulent tout faire pareil, ils vont se connecter et ils décochent. » Donc, moi, j'ai proposé ça
dans mon podcast il y a 2 ans, 3 ans. Et donc là, je peux vous annoncer que ce sera effectif en 2025. Parce que c'est très compliqué l'informatique et le site des impôts. Mais donc à partir de 2025, ce sera le taux personnalisé par défaut, individualisé par défaut. Voilà. Donc tu vois, tu as tes toutes petites demandes, genre ça, changez-nous le taux par le truc par défaut. Tu as des demandes de déconjugaliser. Alors déconjugaliser aussi les prestations sociales. Ça n'a été fait que pour l'allocation adulte handicapé, grâce aux militantes. Où en fait, on s'est rendu compte que. Une femme qui avait un handicap, qui vivait avec un homme, on lui disait « Ah ben non, on ne va pas vous donner votre allocation, votre conjoint a de l'argent et donc vous avez accès à son argent. » En fait, c'est des femmes qui sont beaucoup plus en situation d'être victimes de violences, qui ont besoin de pouvoir partir et donc pour partir, il faut avoir de l'argent. Mais le gouvernement disait non. Il y avait vraiment un truc genre « Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. » Et ça ne coûtait pas très cher comme mesure. Et c'est là où on se rendait compte qu'il y avait un vrai truc, à mon avis, idéologique de un couple, ça fait porte-monnaie commun et ça mange du gigot. C'est pas possible que les gens vivent autrement. Ça n'existe pas. Et donc, vraiment, ils ont mis du temps. Il a fallu une énorme mobilisation des militantes pour réussir à obtenir que ce soit déconjugalisé. Mais en fait, maintenant, ça l'ouvre pour toutes les autres prestations sociales. Là, il y a plein de choses où il faudrait revenir là-dessus.
C'est pas vraiment une question, du coup, mais je trouve qu'en tant que femme, c'est super dur de se positionner là-dessus. Ou dans le sens où dès qu'on va commencer à parler d'argent ou à dire ben, j'aimerais que ça soit un peu plus juste, que tu payes un peu plus de choses, etc., on passe tout de suite pour une grosse connasse. Et au contraire, quand un homme justement qui gagne plus, etc., va dire « Non, mais chérie, il n'y a pas de souci, moi je paye et tout », lui, il aura vraiment une super bonne réputation de « Mais quel super mec, quoi !» Et du coup, je trouve que c'est un petit peu dur à vivre dans le quotidien, même avec ses amis ou avec sa famille, parce qu'on doit toujours avoir une stature assez forte parce qu'on se prend des réflexions dans la gueule en permanence.
Ouais. Tout à fait, parce que la féminité, c'est le don. Non, mais on revient à Michel Perrault. Alors après... Je vous ai pas fait le deuxième volet de ce truc qui est absolument génial, qui est Christine Delphi, à qui j'avais dit « Ah, vous savez, Christine, Michel Perrault, elle m'a dit « La féminité, c'est le don ». Petite rivalité entre les féministes, et Delphi, elle m'a fait « Ouais, pas mal ». Moi, je dirais plutôt que c'est un dû. Et oui, c'est-à-dire que le don implique un contre-don, en général. Et donc là, non, là, on considère que c'est un dû, que les femmes doivent le faire et que c'est normal, biologiquement, qu'elles le fassent. Et donc, effectivement, c'est compliqué pour une femme de s'assumer sur une position de pouvoir et de parler d'argent et de machin parce qu'elle n'est plus vraiment une femme. Mais je pense que là-dessus, pour moins se laisser piéger, moi, le fait d'avoir travaillé sur le sujet m'a vraiment détendue dessus. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose, c'est pas immuable au niveau individuel. Tu peux changer ton rapport à ça et tu peux tu vois, te sentir légitime. Une fois que tu as déconstruit un peu le stéréotype, voilà, c'est possible de s'en libérer. Et il y a peut-être aussi un truc d'âge. Quand j'étais plus jeune, j'étais encore plus sensible tu vois, à cette posture-là. Maintenant, je vois rien à foutre. Voilà. Ah.
Bon, ben, merci d'être venus si nombreux et nombreuses. On vous attend le 15 juin pour la prochaine séance, donc avec Candice Deléo et Tess Kinski. Merci à Titiou Lecoq. Au revoir.
Vous venez d'écouter Titiou Lecoq, autrice du livre Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, dans le cadre du cycle de conférences de Grenoble-Alpes-Métropole, Le féminisme fait le printemps. Retrouvez les autres conférences sur grenoblealpesmétropole.fr.